Bonjour, le 38e Forum Visage, forum du film documentaire d'intervention sociale, se déroule jusqu'à jeudi prochain. Il a pour thème « Travailler, gagner et faire sa vie ». Compte tenu du contexte sanitaire et de l'obligation de fermeture du cinéma Saint-Paul, les films sont diffusés via la plateforme Cube. Cette année, la sélection comprend 7 films, dont « Les chardons ardents » d'Hélène Milano, que nous avons joint par téléphone.
Qu'est-ce qui a fait que vous vous soyez rapproché du monde du théâtre et du monde du cinéma ?
C'est toujours compliqué de savoir pourquoi finalement on choisit un chemin et pas un autre. Avec le recul, moi je dirais que j'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui m'a ancrée dans des contes, c'est-à-dire en tant que personne séparée de son pays d'origine, il avait à cœur de raconter, et il racontait merveilleusement les histoires. Et je pense que j'ai toujours eu envie de raconter des histoires et du coup, c'est sur mon chemin, ça a pris des formes différentes. Voilà, j'ai commencé donc par le théâtre comme actrice puisque j'ai continué à jouer tout au long de ma carrière. J'ai commencé aussi en même temps à faire des mises en scène au théâtre. Et puis, les choses se sont définies petit à petit pour aller vers le cinéma. Mais j'ai jamais fonctionné avec un plan préétabli. C'est-à-dire que première mise en scène au sortir de l'école à Marseille, donc avec un groupe d'acteurs que nous étions à l'époque, on crée une compagnie et on a la chance d'avoir accès aux anciens entrepôts de la RTM. Et là, je fais ma première mise en scène dans ce hangar. Et puis, on crée cette compagnie qui travaillera pendant 5 ans, on faisait 3 créations par an, on avait un chapiteau itinérant, on allait jouer dans des endroits qui n'étaient pas forcément prévus pour le théâtre. On a été au Beaumet, on a été à plein d'endroits. Et on avait cette aventure très forte de groupe. Et quand cette aventure s'est arrêtée, le dernier spectacle que j'avais mis en scène, c'était un spectacle à partir d'improvisation, donc c'est écriture de plateau. Et c'est la première fois que j'ai commencé à écrire, en fait. C'est-à-dire que j'écrivais véritablement à partir de ce matériau. Et donc, quand j'ai voulu écrire ma première histoire tout complètement, c'est en l'écrivant que je me suis rendu compte que j'étais pas en train d'écrire pour le théâtre, mais pour le cinéma. J'avais jamais pensé véritablement, et j'ai fait mon premier court-métrage en fiction. Et le documentaire, c'est pareil, c'est-à-dire que je réfléchissais à un projet qui me permette d'ouvrir une réflexion autour de l'amour et du temps. Et en travaillant ce projet, je me suis dit que c'était un film documentaire que j'avais envie de faire, et ça a été mon premier film documentaire qui était sur les personnes qui tombent amoureuses très, très, très âgées. Pas qui reste en couple, qui tombe amoureuse. Voilà, ça a été mon premier film documentaire. Et ensuite, voilà, j'ai continué à la fois à faire des films de fiction, courtes ou moyens, et des films documentaires.
Vous animez aussi des ateliers de théâtre.
En fait, tout au long de mon cheminement, j'ai toujours animé des ateliers où je mettais en scène ou bien des personnes, des ateliers multigénérationnels, ou bien le plus souvent quand même des ateliers avec des jeunes. Donc, dans mon parcours, il y a toujours eu un atelier, oui, que j'animais et pour lequel je faisais une mise en scène avec des jeunes. En fin d'année, c'est quelque chose que j'ai toujours continué. Voilà, en parallèle de mon travail de réalisatrice et d'actrice, il y a un attachement depuis le début, d'abord dans mon travail aux questions autour de l'adolescence, et puis le plaisir très grand que je peux avoir de travailler avec des jeunes sur l'écriture théâtrale, mais aussi de les rencontrer, j'ai beaucoup de plaisir à ça.
On vous présente comme une militante, j'ajouterais une militante féministe.
Alors, une militante féministe, je crois que la question de l'émancipation de façon globale, pour chacun des individus que nous sommes, ça m'intéresse. Et comme femme, évidemment que je me suis... évidemment, il se trouve que les personnages féminins que j'ai pu écrire ou que j'ai pu mettre en scène... raconte toujours un désir d'émancipation, que oui, je me sens très très concernée par la cause des femmes de façon générale, mais aussi très fortement par le fait que en France, on a créé quand même socialement des zones qui sont quasiment des zones de ségrégation sociale. Et que ça m'est insupportable en fait, et que c'est vraiment une préoccupation pour moi que de mettre en lumière aussi des grands écarts qui ont été créés et qui sont très injustes.
C'est plus large que la question féministe.
Mais je la porte en moi, je pense que la question féministe, je la porte, voilà, j'ai pas besoin de l'affirmer comme un, comment dire, comme un étendard, parce que je la porte et je partage avec beaucoup d'autres artistes, je me sens proche de, voilà, de tous ceux qui tentent de faire avancer les choses.
On s'intéresse maintenant aux charbons ardents. Dans le projet initial, vous aviez l'idée déjà de deux films, miroirs, si je peux dire comme ça. Alors, j'ai pas vu le premier, mais de ce que j'ai compris, il y a la version au féminin et la version au masculin.
Oui, c'est ça. En fait, l'histoire s'est faite au départ. Donc, je souhaitais faire un film qui s'appelle Les Roses Noires avec des jeunes filles. Et quand j'ai terminé ce film, j'avais vraiment choisi délibérément, parce qu'on m'avait posé la question à ce moment-là, mais comment, il n'y a pas de garçons dans le film, il n'y a que des filles. Oui, il y a quelques garçons, mais ils ne sont pas personnages et protagonistes principaux. J'avais complètement assumé le fait d'être complètement du point de vue des filles et de ne pas chercher à ce que la place des garçons ça soit vaguement un droit de réponse. Je trouvais que c'était pas une bonne idée, finalement, que d'avoir les garçons et les filles dans le même film. Donc, j'avais choisi de faire comme ça. Et quand j'ai fini ce film, j'ai fait beaucoup de projections des Roses Noires. Et j'avais toujours, parce que je faisais beaucoup de projections aussi avec des jeunes, et j'avais systématiquement des réactions de garçons. Dans le film des Roses Noires, il y a notamment une partie qui est consacrée aux phénomènes de réputation qui sont faites aux filles, comme un système qui comprend, qui effraie, qui fait passer un peu les valeurs du groupe, mais qui est un stress pour les jeunes filles. Et il y avait très souvent trois réponses de garçons dans ces assemblées. La première qui était, ben moi je fais pas, je participe pas à ça. Je dis, ben, c'est très bien, j'ai rien à dire à ça, très bien. Le deuxième c'était, bon d'accord, ça a pu m'arriver de participer à ce type de mécanisme, mais je savais pas que ça faisait mal. C'était déjà une ouverture que je trouvais très intéressante. De la découverte par ce jeune homme du fait que la violence qui était faite aux femmes, il n'en avait pas forcément conscience. Et la troisième étape qui était, mais pour nous garçons, c'est pas si facile. Et donc cette phrase, elle m'est restée dans l'oreille et c'était évident que je devais faire un film avec les garçons. Il y avait quelque chose qui était un diptyque, même si l'idée m'était venue d'un diptyque très en amont, je n'étais pas sûre de pouvoir le faire ou de vouloir le faire après. Et vraiment, d'avoir à chaque fois cette phrase qui était redite, ça me confortait vraiment dans l'idée qu'il fallait que je fasse ce film. Mais par contre, je ne voulais pas faire un film miroir. Je ne voulais pas repasser par la question du langage, qui dans Les Roses Noires est vraiment la colonne vertébrale qui permet de faire que toutes les problématiques qui sont travaillées dans le film passent par la question de la langue. Je ne voulais pas refaire la même chose. Et donc, je cherchais, je me demandais un peu comment j'allais faire et je voulais que ces deux films puissent se renvoyer des questionnements différents et s'enrichir l'un l'autre. J'ai eu la chance d'aller faire une résidence artiste en Bretagne organisée par l'association T-Film, qui fait plein de choses super. Et dans ce lycée professionnel en Bretagne Centre, j'ai vraiment senti que j'avais envie, puisque je voulais faire un film sur la construction du masculin, de mettre en lumière des garçons qui ont déjà un pied dans le monde du travail, parce que déjà une maturité assez particulière et puis très au front des inquiétudes que le monde du travail leur envoie aujourd'hui. Voilà, à partir du moment où j'ai compris ça, je savais que j'allais faire ce film en lycée professionnel.
Les Roses Noires ont été tournées, ou en tout cas présentées en 2012, Les Charbons Ardents en 2019, ça fait 7 ans. Ça signifie que ce sont des projets lourds à porter ou pour mûrir, il a fallu 7 ans?
Je dirais les deux, c'est-à-dire que moi j'avais besoin de mûrir, comme aussi en faisant Les Roses Noires, il y avait beaucoup, beaucoup de liens d'amitié qui existaient avec les jeunes filles. J'étais vraiment très, très dans mon film finalement. Il m'a fallu du temps aussi pour passer de l'autre côté, on va dire. Et j'avais besoin vraiment de mûrir mon propos, de réfléchir à beaucoup de choses. Et puis aussi, tout début des réflexions, c'est moi en tant que femme, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je vais pouvoir obtenir avec ces jeunes garçons autant de simplicité, d'authenticité que j'ai pu avoir avec les filles? Donc il a fallu que je teste un certain nombre de choses. Et puis assez vite, j'ai vu que c'était pas du tout un problème. Et puis l'autre aspect, c'est que bizarrement, oui, Les Roses Noires avaient quand même eu un écho assez, en tout cas, il existait, quoi, du point de vue des gens susceptibles de financer un film. Et je m'attendais quand même à ce qu'il y ait plus de soutien à l'idée de faire un film avec des garçons. Et je m'attendais pas à ce que ce soit si long, effectivement, de monter ce projet et même tout au long du travail, de continuer à se battre hein, pour que les financements arrivent, pour que le film puisse arriver à son terme. Oui, les deux films ont été quand même assez lourds à porter. Et c'est comme ça, voilà, c'était l'histoire de ces deux films-là.
Les Roses Noires ont été tournées dans une seule région ?
Les Roses Noires ont été tournées à Marseille, dans le quartier de la Busserine à Marseille, mais aussi dans trois villes de la région parisienne, Saint-Denis, Tain et Le Blanc-Ménil. Il y avait déjà, pour Les Roses Noires, le désir de recréer un cœur, un corps de jeunes filles, même si elles étaient à distance. C'est-à-dire que, en fait, au tout début de mon travail, j'avais en tête les cœurs antiques dans les tragédies grecques, et j'avais envie que la forme du film renvoie à ce cœur, à ce corps. Et c'est pour ça que j'ai commencé à rencontrer des jeunes filles, et je me suis rendu compte qu'en fait, assez vite, loin d'avoir des divergences profondes, j'avais beaucoup de convergences. Je pouvais quasiment commencer une phrase avec une jeune fille à Paris et la finir à Marseille. Les problématiques étaient extrêmement proches. Donc du coup, ça a fonctionné, l'idée de faire ce cœur alors qu'elles sont à distance.
Et donc, c'est le même principe pour Les Charbons Ardents.
Voilà. Et donc, pour Les Charbons Ardents, j'ai choisi de travailler à l'intérieur des lycées. Donc, il a fallu trouver des lycées partenaires dans trois régions. Et donc, il y a quand même six lycées hein, qui participent à ce projet. Charleville-Mézières, Marseille-Port-de-Bouc. Port-de-Bouc étant une petite ville ouvrière à côté de Marseille. Et en région parisienne, trois autres lycées. Et ça, pareil, je voulais garder l'idée du cœur. Et de refaire aussi un corps, de recréer un corps social, imaginaire. Parce que une des choses qui m'a le plus frappée et touchée quand je suis entrée en relation avec tous ces garçons, avant que je tourne, j'en ai rencontré beaucoup, c'est le sentiment de solitude très fort et de n'avoir pas du tout la sensation d'appartenir à un corps, à une classe. Ils se sentent très très seuls. Donc finalement, mon idée de recréer un cœur fonctionnait parce que venait mettre en lumière le partage de problématiques dans lesquelles ils se sentent parfois très très seuls.
Ça peut créer des légers petits troubles dans la tête de spectateur que j'ai été. On raconte une histoire de Calanque et je suis dans la banlieue parisienne. Est-ce que j'ai bien compris ?
Vous voulez dire que dans le montage, le fait qu'on passe d'un endroit à l'autre sans le signifier, qu'on a changé d'endroit, peut perturber le spectateur, c'est ça ?
Ça a légèrement perturbé le spectateur que
oui.
Je suis.
Oui, oui.
C'est pas l'essentiel, mais d'un autre côté, c'est un avantage, c'est que ça balaye l'image qu'on le portait sur ces quartiers de ville.
Oui, moi je crois aussi que ça contribue au fait de mettre en partage des questionnements, des représentations qui sont partagées de Charleville-Mézières à Marseille en passant par la région parisienne et que l'essentiel n'est justement pas dans des particularismes qui seraient expliqués ceci ou cela. Beaucoup plus profond en fait.
Dans l'écriture du documentaire, vous aviez déjà présentement à l'esprit sa structure, et peut-être, alors moi je l'ai pris comme du chapitrage, trois angles principaux, la formation professionnelle et la projection dans l'avenir, la vie dans le quartier, les relations filles-garçons et relations amoureuses aussi.
Oui, en fait, dès l'écriture, je savais que je voulais entrer dans la question du masculin, la question autour du masculin, par la question du travail et la place que l'on projette que l'on peut avoir dans ce monde du travail. Parce qu'en fait, culturellement, c'est extrêmement important dans l'imaginaire aussi de ces garçons, comment se construire comme homme dans une société qui est hyper insécurisante à cet égard. C'est-à-dire que je voulais partir vraiment de la question du monde du travail, puis me rapprocher des relations entre garçons pour arriver jusqu'à les questions autour des relations amoureuses. Et tout ça, en fait, le film chemine dans une idée de dévoilement aussi, de leur fragilité, de leur peur, de leur sensibilité. Mais c'était très important pour moi de commencer par ces questions-là, sociales et du travail. C'est pas une anecdote du tout. En fait, dans la première partie, donc, quand Sabri dit un homme, il ramène le pain, ça peut paraître très simple. Mais si on prend la mesure de ce qu'il dit, qu'est-ce que ça veut dire donc pour un garçon qui pense qu'être un homme, c'est ramener le pain? Il le pense, ils sont très très nombreux à le penser. Qu'est-ce que ça veut dire de se projeter dans un avenir très insécurisant, de ne pas savoir si on aura du travail, de savoir aussi que, eh bien, il y a cette menace constante de se lancer dans un métier qui on peut être remplacé par des machines, d'être très fragilisé, de se dire que peut-être ce sera plutôt des périodes sans emploi. Tout ça, en fait, c'est très stressant pour eux. Et que ils n'ont pas du tout la sensation que le travail est un endroit où ils peuvent s'épanouir et épanouir un certain nombre de défis. Ils en ont globalement une vision pas très joyeuse.
Ces jeunes font la démonstration qu'ils ont envie de s'insérer dans le monde du travail et ils témoignent de tous les obstacles. Comme déjà on est mal vu du fait de notre lieu de résidence, c'est compliqué de pouvoir s'insérer. Il y a les deux dimensions, il y a la difficulté de trouver du boulot aujourd'hui. Et en plus, le regard que la société porte sur ces jeunes.
Ah oui, si on prend vraiment la mesure de des violences symboliques qu'ils doivent affronter, ils ne sont absolument pas dupes, ils sont très lucides. Et avec ça, il faut malgré tout qu'ils construisent leur vie, parce qu'effectivement, et heureusement, l'énergie de cette jeunesse fait qu'ils construiront un parcours. Mais oui, il faut regarder la difficulté dans laquelle ils sont. D'autant plus qu'en étant en lycée professionnel, ils ont déjà été confrontés à des injonctions paradoxales au sein même de l'éducation nationale. Hein. C'est-à-dire que on va dire, bah oui, tu vas aller en lycée professionnel, tu vas apprendre un métier. Mais pourtant, ce qu'il a entendu, c'est « attention, si tu n'as pas de bonnes notes, tu vas aller en lycée pro, c'est une punition ». Vous voyez, c'est d'un côté, on va dire qu'on valorise le fait d'apprendre un métier et d'être plutôt manuel et d'avoir cette intelligence-là. Mais à côté de ça, il y a une forme de double discours quand même qui leur est envoyé. Et donc, ils doivent faire le chemin pour eux, pour se dégager de toutes ces paroles un peu pesantes et construire leur projet en y croyant fort. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gamins qui se retrouvent là, non pas parce qu'ils ont choisi, parce que le garçon qui a choisi, on sent bien qu'il n'est pas dans le même rapport au diplôme qu'il veut avoir, mais il y en a plein qui se retrouvent là par défaut. C'est-à-dire que, en fait, ils se retrouvent même assommés un petit peu parce que, au collège, eh ben, c'est plutôt les questions des relations garçon-fille ou des relations entre garçons, de leur construction de liens sociaux qui a pris le dessus. Pour certains, alors qu'ils en avaient tout à fait les moyens et le désir, ils n'ont pas du tout investi l'école. Et puis, là arrive l'orientation. Et là, le train est passé. Donc, il y a une sensation pour beaucoup d'entre eux de « je suis pas à la bonne place, en fait ». Alors oui, il y a des passerelles qui sont possibles ensuite. Mais c'est pas du tout un chemin facile.
Il y a une scène qui a été tournée en classe.
Et on va voir une situation particulière, les grèves de Carmo, avec un personnage politique important, Jean Jaurès.
Ah, je le connais, c'est le quartier.
Alors oui, vous connaissez tous forcément un quartier, une place, une rue qui s'appelle Jean Jaurès, mais on va voir aussi pourquoi.
C'est pas le gros, madame.
Alors, dans quel film il aurait joué Jean Jaurès?
Il travaille dans les mines de charbon. Là.
Quel est le film où on a Gérard Depardieu et on a les mines?
Ah, moi je sais pas.
Ah, vous m'en avez parlé.
Je donne ma langue au charme.
Bah, c'est
ah,
celui
bon, Germinal.
Germinal. Et qui c'est qui a écrit cette histoire à l'origine?
Il Zola.
Effectivement, Germinal.
Oh, tu es chaud, toi.
Oh, tu es puissant, hein.
La culture.
Hélène. Hélène. On accélère, on m'écrit le titre, on se dépêche, s'il vous plaît.
Oui, c'est-à-dire que... Moi, ce qui m'a frappé aussi quand je parlais de solitude, c'est qu'ils ont quelque part senti cette atomisation du monde ouvrier, c'est que les luttes ne représentent pas pour eux un endroit où ils vont s'inscrire dans un collectif. Et l'absence de ce collectif, ça leur enlève la force quand même, ça on le sent. Et le fait que cette professeure, donc français et histoire, puisque c'est professionnel, le professeur fait les deux, travaille ces questions-là avec eux, on sent qu'il y a un éveil à la possibilité, effectivement, de se penser comme un collectif, mais ils sont très, très loin de ça, en fait. Ils n'y croient pas tellement. Au fait qu'aujourd'hui, on puisse s'inscrire dans un collectif en lutte pour faire progresser les conditions de travail, ça, ils n'y croient pas tellement. Donc vraiment, ça participe de la découverte.
Et c'est ce qui a motivé le fait que vous ayez conservé des plans où on voit des élèves en train de bâiller en cours ou en train de penser à autre chose.
Oui, il y a un décalage, en fait, assez important entre... En fait, ce qui est très compliqué pour les professeurs, c'est d'arriver à les ramener à l'endroit où ils s'approprient un certain nombre de sujets et de questionnements. C'est pas du tout simple pour les professeurs. Mais après, c'est sûr que moi, quand j'arrive avec mon projet, le fait de faire un film de cinéma, j'ai pas eu ce souci-là parce que c'est quelque chose qui est profondément dans la forme de ce que je propose et les intéresse, le sujet les intéresse énormément. Donc, j'ai pas eu cette difficulté à laquelle est confronté tous les professeurs le plus souvent, quoi. C'est comment faire pour que ceux qui t'enseignent, ils s'approprient, ils en font la possibilité d'épanouir leur pensée à l'intérieur de ça. Ils se sentent parfois assez peu concernés, en fait. Ça, c'est vraiment une difficulté, je trouve.
Merci à Hélène Milano, la réalisatrice des Charbons Ardents, un film documentaire diffusé gratuitement le mardi 30 mars à 20h30 via la plateforme Cube, dans le cadre du 38e Forum Visage, forum du film documentaire d'intervention sociale.